46e de Millennium, tome première, traduit par Antoine Galland, enregistré pour LibriVox.org par Colinda. Sur la fin de la nuit, Dinarzade ayant appelé la sultane, lui dit: Ma sœur, si vous ne dormez pas, je vous prie de continuer l'histoire que vous n'avez pu achever hier. Je le leur, répondit Scheherazade, et sans perdre de temps, vous saurez que le second calender poursuivit ainsi. Ne croyez pas, madame, que je m'approchais de la belle princesse de l'île d'Ébène pour être le ministre de la barbarie du génie. Je le fis seulement pour lui marquer par mes gestes, autant qu'il me l'était permis, que comme elle avait la fermeté de sacrifier la vie pour l'amour de moi, je ne refusais pas d'immoler aussi la mienne pour l'amour d'elle. La princesse comprit mon dessein. Malgré ses douleurs et son affliction, elle me le témoigna par un regard obligeant et me fit entendre qu'elle mourrait volontiers et qu'elle était contente de voir que je voulais aussi mourir pour elle. Je reculai alors et jetant le sabre par terre, je serai, dis-je au génie, éternellement blâmable devant tous les hommes, si j'avais la lâcheté de massacrer. Je ne dis pas à une personne que je ne connais point, mais même une dame comme celle que je vois dans l'état où elle est, près de rendre l'homme. Vous ferez de moi ce qu'il vous plaira, puisque je suis à votre discrétion, mais je ne puis obéir à votre commandement barbare. Je vois bien, dit le génie, que vous me travez l'un et l'autre, et que vous insultez à ma jalousie. Mais par le traitement que je vous ferai, vous connaîtrez tous deux de quoi je suis capable. À ces mots, le monstre reprit le sabre et coupa une des mains de la princesse, qui n'eut le temps de me faire un signe de l'autre, pour me dire un éternel adieu, car le sang qu'elle avait déjà perdu et celui qu'elle perdit alors ne lui permirent pas de vivre plus d'un moment ou deux après cette dernière cruauté dont le spectacle me fit évanouir. Lorsque je fus revenu à moi, je me plaignis au génie de ce qui me faisait languir dans l'attente de la mort. Frappé, lui dis-je, je suis prêt à recevoir le coup mortel. Je l'attends de vous comme la plus grande grâce que vous me puissiez faire. Mais au lieu de me l'accorder, voilà, me dit-il, de quelle sorte les génies traitent les femmes qu'ils soupçonnent d'infidélité. Elle t'a reçu ici. Si j'étais assurée qu'elle me fait un plus grand outrage, je te ferais périr dans ce moment. Mais je me contenterai de te changer en chien, en âne, en lion ou en oiseau. Choisis un de ces changements. Je veux bien te laisser maître du choix. Ces paroles me donnèrent quelque espérance de réfléchir. Ô génie, lui dis-je, modérez votre colère. Et puisque vous ne voulez pas m'ôter la vie, accordez-la moi généreusement. Je me souviendrai toujours de votre clémence si vous me pardonnez, de même que le meilleur homme du monde pardonna à un de ses voisins qui lui portait un envie mortelle. Le génie me demanda ce qui s'était passé entre ces deux voisins, en disant qu'il voulait bien avoir la patience d'écouter cette histoire. Voici de quelle manière je lui en fis le récit. Je crois, madame, que vous ne serez pas fâchée que je vous la raconte aussi. Histoire de l'envieux et l'envié. Dans une ville assez considérable, deux hommes demeuraient porte à porte. L'un conçut contre l'autre une envie si violente que celui qui en était l'objet résolut de changer de demeure et de s'éloigner, persuadé que le voisinage seul lui avait attiré l'animosité de son voisin. Car, quoiqu'il lui eût rendu de bons offices, il s'était aperçu qu'il n'en était pas moins haï. C'est pourquoi il vendit sa maison avec le peu de biens qu'il avait, et se retirant à la capitale du pays, qui n'était pas bien éloignée, il acheta une petite terre environ à une demi-lieue de la ville. Il y avait une maison assez commode, un beau jardin et une cour raisonnablement grande, dans laquelle était une citerne profonde dont on ne se servait plus. Le bonhomme, ayant fait cette acquisition, prit l'habit de derviche pour mener une vie plus retirée et fit faire plusieurs cellules dans la maison, où il établit un peu de temps une communauté nombreuse de derviches. sa vertu le fit bientôt connaître, et ne manqua pas de lui attirer une infinité de monde, tant de peuples que de principaux de la ville. Enfin, chacun l'honorait et le chérissait extrêmement. On venait aussi de bien loin, se recommandait à ses prières, et tous qui se retiraient d'auprès de lui publiaient les bénédictions qu'il croyait avoir reçues du ciel par son moyen. La grande réputation du personnage s'étant répandue dans la ville où il était sorti, l'envieux en avait un chagrin si vif qu'il abandonna sa maison et ses affaires dans la résolution de l'aller perdre. Pour cet effet, il se rendit au nouveau couvent de derviches dont le chef, c'est devant son voisin, le reçut avec toutes les marques d'amitié imaginables. L'envieux lui dit qu'il était venu exprès pour lui communiquer une affaire importante, dont il ne pouvait l'entretenir qu'en particulier. Afin, ajouta-t-il, que personne ne nous entende, promenons-nous, je vous prie, dans votre cour. Et puisque la nuit approche, commandez à vos derviches de se retirer dans le salut. Le chef de derviche fit ce qu'il souhaitait. Lorsque l'envieux se vit seul avec ce bonhomme, il commença de lui raconter ce qui lui plut, en marchant l'un à côté de l'autre dans la cour, jusqu'à ce que se trouvant sur le bord de la citerne, il le poussa et le jeta dedans sans que personne fût témoin d'une si méchante action. Cela étant fait, il s'éloigna promptement, gagna la porte du couvent, il sortit sans être vu, et retourna chez lui, fort content de son voyage et persuadé que l'objet de son envie n'était plus au monde. Mais il se trompait fort. Scheherazade n'en put dire davantage, car le jour paraissait. Le sultan fut indigné de la malice de l'envieux. « Je souhaite fort, dit-il en lui-même, qu'il n'arrive point de mal au bon derviche. J'espère que j'apprendrai demain que le ciel ne l'abandonne point dans cette occasion. » Fin de la 46e nuit. Cet enregistrement fait partie du domaine public.